mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec l'équipe d'AC. AC, c'est Agir Ensemble contre le chômage, l'émission sur les chômeurs et précaires. Je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
C'est Gilles au micro, également Claude à la technique. Mercredi dernier, le 4 mars, avait lieu à Paris, à la Bourse du Travail, la grande assemblée générale des précaires et chômeurs. Suite à l'entrée du recalcul des indemnités chômage qui se fera le 1er avril. En effet, le 1er avril va s'appliquer le deuxième volet de la casse de l'assurance chômage imposée par décret le 26 juillet dernier. Après l'exclusion des droits de centaines de milliers de chômeurs en novembre, ce sera une terrible diminution du montant des allocations. La précarité sans allocation devient la norme. Précaires, chômeurs, SES, CDD, vacataires, saisonniers et saisonnières, RAST, étudiants, intermittents, intérimaires, pigistes, services à la personne, enseignants et formateurs, contractuel, tout le monde est concerné à court, moyen et long terme. Surtout que la destruction en cours du système de retraite va encore plus aggraver la situation. On va donc...
Oui, on va donc commencer par Pierre de la CGT qui va nous présenter un bilan de la loi travail et ses effets sur l'emploi. Et donc c'était le 3 mars à la Bourse du Travail et il y avait beaucoup de monde. Alors... petit problème technique.
Alors justement, dans ce justement, Pierre, il parlait principalement. Donc, a priori, on va entendre parler Pierre
de la
réforme de l'assurance chômage, hein. Également des 87% de contrats courts, Ludo.
Absolument. Bah oui, c'est en fait. On en a beaucoup parlé ici. En fait, oui. C'est que aujourd'hui, sur le marché du travail, on signe principalement des CDD et la durée des CDD se réduit. C'est-à-dire qu'il va donner un chiffre, on va l'entendre dans l'interview, il y a 5 ans c'était 21 jours, aujourd'hui c'est 5 jours. Ce qui est en fait cumulé en fait avec le recalcul, comme tu le disais, le 1er avril,
oui.
C'est-à-dire qu'en fait on va lisser la durée d'indemnisation des chômeurs, non pas sur les périodes travaillées, mais sur les période de travail et de non-travail, ce qui aura un effet baissé. En fait, ça va toucher les plus précaires, les intérimaires. Et donc, là, il y a quand même un problème parce qu'on sait bien que les temps partiels, les temps précaires ont tendance à augmenter. Et donc, la logique du gouvernement, c'est grosso modo de mettre tout le monde au travail, en fait. C'est cette impression qu'on a simplement. Pour ne pas dire qu'on a un gouvernement qui est quand même dans une logique très conservatrice et très libérale, qui consiste à dire bosser, bande de fainéants, même si le taux de chômage... Alors, évidemment, vous me direz, le taux de chômage baisse, et donc s'il baisse, il faut encourager les gens à travailler, inciter les gens à travailler en leur réduisant leurs subventions, bien sûr. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il y a quand même à peu près 1 million et quelques de gens qui, par exemple, sont dans le halo du chômage. Donc, c'est-à-dire des gens qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas. Il y a quand même beaucoup de temps partiel subi, etc., etc. Et si on faisait le recalcul de ces gens qui, on aurait des taux de chômage qui sont beaucoup plus élevés. Mais on va écouter tout de suite Pierre et justement qui nous fait un bilan de la loi travail et de ses effets sur l'emploi.
Alors, moi, je vais essayer de présenter un peu le contexte social économique dans lequel le décret du 26 juillet il va s'implanter et être mis en œuvre. Et déjà d'entrée de jeu, pour dire que là, on est bien d'accord, on n'est pas face à une réforme de l'assurance chômage. Les mots, ils ont leur importance. Une réforme, c'est sur une convention, c'est négocié paritairement entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Là, on est face à un décret. Donc, ce n'est pas une réforme, ce n'est pas une convention. C'est quelque chose qui a été imposé par le gouvernement pour répondre aux intérêts du patronat et des capitalistes financiers. Alors, juste pour donner aussi du coup ce contexte-là, pour donner de la chair un peu dans lequel, pour dire à quel point, en fin de compte, ce décret-là, il va à contresens de la réalité sociale et de l'urgence sociale qu'on connaît dans ce pays. Le décret du 26 juillet, il vient 2-3 ans après la mise en place des lois travail et des ordonnances Macron contre lesquelles la CGT, les organisations syndicales, on a pu se mobiliser et se battre. Et il y a un lien quand même avec le décret du 26 juillet, et au moins sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sur le... Vous savez, il y a un adage là, un peu patronal, libéral, qui nous dit qu'il faut faciliter les licenciements pour pouvoir embaucher. Bon, bah là, on peut faire le bilan quand même un peu, 3 ans après les ordonnances Macron. Pour prendre simplement deux instruments qui ont été mis en place par la loi travail et les ordonnances, c'est la mise en place de barèmes prud'homaux, donc qui fixe un plancher maximal aux indemnités que les salariés peuvent avoir lorsqu'ils sont licenciés sans cause réelle ni sérieuse. Hein, donc il y a eu un plancher maximum selon l'ancienneté des salariés. Aujourd'hui, en 2018, pardon, donc un an après seulement la mise en place de ces barèmes prud'homaux-là, il y a 25% des employés qui étaient en CDI, ils ont vu leur contrat être rompu. Hein, donc ça veut dire qu'il y a eu une augmentation des licenciements sur seulement une période d'un an. Et pour les ouvriers, c'est de l'ordre de 21,5% hein, de tous les contrats. On est bien d'accord. Hein. Tous les contrats en CDI sur l'année 2018, il y a 25% des contrats qui ont été rompus par l'employeur en 2018. Bon, donc ça, c'est un premier élément. Il n'est pas anodin, parce que le chômage de masse, hein, c'est quelque chose qui construit, qui s'amplifie. Et donc ça, c'est une vraie incidence. La deuxième grosse incidence, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes, pardon, et la mise en place de négociations de branches, donc dans les conventions collectives, et des négociations de branches, pardon, sur décider du recours aux contrats précaires, donc à la fois sur le nombre de CDD qu'on peut mettre les uns à la suite des autres, sur leur durée et sur le délai de carence. Alors, la précarité se développe dans le pays depuis déjà un certain nombre d'années, mais quand même, on a eu un peu une accélération. Par exemple, en 1993, 76% du taux d'entrée, donc c'est-à-dire des contrats qui étaient signés entre un patron et un salarié, 73% des contrats, c'était des CDD. On est monté jusqu'à 83% en 2009. Et là, en 2018, on est monté à 87%. Hein, donc il y a une précarité qui se développe, qui se généralise. Alors ça ne change pas forcément sur la photographie du salariat, puisque encore aujourd'hui, hein, il y a seulement 20%, enfin même un peu moins de 20% des contrats qui sont en CDD. Mais par contre, on a 11 millions de travailleurs privés d'emploi et précaires qui se partagent 20%, un peu moins, du marché de l'emploi. Et quand même, ce qui va de plus en plus, c'est la baisse des durées de contrat. Là, pareil, pour chiffrer, pour prendre juste des chiffres, en 2001, donc c'est pas il y a si longtemps que ça, 50% des CDD avaient une durée inférieure à 21 jours, ce qui est déjà quand même très peu. Aujourd'hui, en 2018, c'est 5 jours. La moitié des contrats en CDD qui sont émis ont une durée qui sont inférieure à 5 jours. Donc quand Johan il va vous expliquer les conditions pour pouvoir ouvrir des droits, gardez ça en tête, 50% des contrats ont une durée inférieure à 5 jours. Alors bien évidemment ça se concentre sur certains secteurs économiques, majoritairement dans l'industrie, la construction, et un autre qui est le tertiaire. Pour prendre ce seul secteur là, en gros 46% des employés du tertiaire ont en moyenne 4 contrats par trimestre. Hein, donc ça illustre bien cette réalité-là, que les contrats sont de plus en plus courts. Et la précarité, elle est bien subie, puisque les employés continuent à signer leurs contrats précaires chez le même employeur. Hein, c'est pas le salarié. Là, je le dis, ça peut paraître une banalité, mais le gouvernement, lors des négociations, par exemple, sur l'UNEDIC, il nous dit la précarité, c'est l'optimisation fiscale. Parce que, vous savez, il y a la prime précarité. Donc voilà, donc c'est pas anodin quoi, de dire ça. Hein, la précarité, elle est subie. Donc une fois qu'on dit ça, on peut se poser la question qui organise le chômage est la précarité dans ce pays. On va prendre un seul exemple, c'est Ford. Ford à Blanquefort, il y a une usine où il y avait 1000 salariés, un tas d'emplois d'entreprises sous-traitantes qui dépendaient de cette activité-là en Gironde. Le patron a décidé de fermer l'entreprise. Il y avait un repreneur. L'État aurait pu imposer à Ford que l'usine soit reprise par un autre constructeur. L'État, qu'est-ce qu'il... Il n'a rien fait. Voilà, il n'a rien fait. Donc, c'est 1000 emplois qui ont été supprimés. Certainement des milliers d'autres emplois qui sont aujourd'hui dans le rouge et qui, malheureusement, vont être supprimés aussi. L'État, il récompense ces entreprises-là avec le CICE. Il les gave de subventions publiques. Si on prend, par exemple, Carrefour, ils ont touché des centaines de millions d'euros de CICE. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un instrument qui a été donné par les ordonnances Macron, ça s'appelle les ruptures conventionnelles collectives. Ruptures conventionnelles collectives, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça permet à un employeur de casser de l'emploi pour des raisons économiques sans passer devant un tribunal. Normalement, quand un employeur il fait un plan de licenciement pour raisons économiques, plan de sauvegarde de l'emploi, comme ils les appellent, ils doivent passer devant un tribunal. Le tribunal doit valider le PSE. Rupture conventionnelle collective, ça permet d'éviter ce passage-là. Bon, et ben en 2018, c'est 3000 emplois qui ont été supprimés à Carrefour alors qu'ils ont touché des tonnes de CICE. À PSA, c'est 1300 emplois qui ont été supprimés qu'en 2018 alors qu'ils touchent des centaines de millions de CICE. Et on peut faire comme ça une liste longue. 700 à Sanofi et encore des milliers d'emplois à la Société Générale. 2100 emplois supprimés. Donc il y a une casse de l'emploi qui est générale, qui ne se concentre pas seulement sur un secteur économique mais sur l'ensemble de notre société. Et c'est bien le patronat qui organise le chômage et la précarité. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut placer l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est une protection sociale. C'est une protection sociale pour les travailleurs, parce que les travailleurs, ils sont privés d'emploi. C'est pas nous qui choisissons d'être licenciés, et c'est pas nous, malheureusement, dans cette société, qui avons le pouvoir d'embaucher. C'est bien le patronat. Donc, la sécurité sociale et l'assurance chômage, elle est là pour protéger les travailleurs et y compris pour empêcher qu'il y ait une concurrence trop importante qui soit mise les travailleurs les uns entre les autres. Parce que le chômage, comme Marx il a pu le théoriser, mais aussi d'autres penseurs, c'est bien cette armée industrielle de réserve qui permet deux choses principales pour le patronat. C'est de faire pression sur les salaires par chantage à l'emploi, et ça on l'a tous entendu. C'est en gros, si t'es pas content, t'as 4 cassés, de toute façon il y en a 11 millions qui attendent ta place. Et puis l'autre, c'est que les chômeurs, ils acceptent n'importe quel emploi. Aujourd'hui on n'est pas libre de travailler. C'est soit on travaille, soit on touche une indemnisation, et Yann va vous l'expliquer, qui est de plus en plus faible. Donc on est bien obligé de travailler. L'assurance chômage, elle a déjà ramassé des coûts. Là, on va vous présenter les autres, mais elle en a déjà ramassé beaucoup. Si on prend la dernière convention en 2017 que la CGT n'a pas signée parce qu'elle a imposé une baisse déjà de 900 millions d'euros sur les droits des chômeurs, aujourd'hui, il y a l'urgence sociale. Il y a 50% des indemnisations chômage qui sont inférieures à 950 euros et il y a seulement 20% des chômeurs qui sont indemnisés. Le gouvernement, au lieu de répondre à cette urgence sociale-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous imposer une nouvelle baisse de 6 milliards d'euros des droits. Il y a la question de l'assurance chômage. Il y a des liens qui sont évidents à faire avec les autres caisses de la protection sociale. Pour prendre par exemple l'exemple de la retraite. La retraite, le projet de loi de Levoy, il projette de calculer nos points retraite à partir de l'indemnisation chômage et non plus sur le salaire qui a été perdu. C'est une terrible attaque. L'âge pivot, quand on dit qu'il y a 55% des travailleurs de plus de 50 ans qui sont au chômage, qu'est-ce qui va se passer? Les travailleurs, ils vont pas avoir d'autre choix que de partir avant l'âge pivot, parce que de toute manière, il n'y a pas d'emploi, et ils vont se voir attribuer une décote de 10% sur l'ensemble de leur retraite. Voilà, donc il y a des liens à faire, et nous, je crois qu'on a intérêt à aller sur le côté travailleurs précaires, effectivement, la triple peine pour l'indemnisation chômage, la triple peine pour les arrêts maladie, parce que c'est les travailleurs précaires qui ont la santé qui est la plus cassée, et la peine, bien évidemment, pour les retraites, puisqu'on va vivre avec la misère.
Qu'est-ce que j'ai pu faire dans la vie, mon Dieu? Il y a des jeunes gens qui se font de la bile, des vieux qui se font du mauvais sang, parce qu'ils n'ont que 3 automobiles ou qu'ils n'en pochent que 100%. Ben moi, rien que pour gagner ma croûte. Mais que me fait-on faire un cône? Oh! des bêtises. Rien ne me rebute ni me dégoûte pour gagner ma croûte.
Eh oui. Pour gagner ma croûte, c'était d'Henri Lavergne. On était replongé dans les années 1932, pour le coup. Oh, ben non, c'était quand même sympa, hein, pour le. Donc, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission des chômeurs et précaires. On va reprendre cette émission avec beaucoup d'énergie, on va dire.
Non,
je plaisante.
Donc, il en faut pour les chômeurs. Voilà, donc, et oui.
Voilà, je tire mes lunettes. C'est aujourd'hui. Maintenant, on va écouter peut-être l'intervention Ludo de Johan de la CGT Pôle Emploi, qui nous parle un petit peu de la répression qu'il subit lui-même et que subissent les chômeurs à Pôle Emploi, des sanctions, de la misère pour les accompagnants parce qu'ils n'ont pas les moyens pour accompagner les chômeurs. Ils ont tellement de dossiers à traiter, évidemment. Également des 70 000 contrôles qui se sont faits en 2019. Donc, les chômeurs ont été plus contrôlés qu'ils n'ont été formés. C'est quand même un monde. Donc, on va écouter ce monsieur et ensuite, on reprend la parole. Merci.
Bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, Johan, je suis conseiller pour l'emploi sur l'agence d'Aubervilliers et donc je suis à CGT pour l'emploi Île-de-France. Alors, surtout, hésitez surtout pas à me faire des gestes si jamais ça devient trop technique, si vous comprenez pas certains trucs de la réforme, parce qu'en vrai, c'est hyper technique et c'est hyper compliqué. Faut savoir que les conseillers pour l'emploi en indemnisation, ils ont été sur 2 jours de formation. Les conseillers placement, ils ont été sur 1 jour. Et en vrai, c'est vraiment la galère pour comprendre la chose. Je pense qu'on ne peut pas parler de la réforme de l'assurance chômage sans parler du décret du 30 décembre 2018 qui met en place la répression à Pôle emploi, la répression des privés d'emploi. Le décret du 30 décembre, il vise à augmenter les sanctions des privés d'emploi en cas de non-recherche d'emploi, en cas d'absence à rendez-vous, en cas d'absence à des prestations. Et il renforce les brigades de contrôle de recherche d'emploi au sein de Pôle emploi. Il faut savoir qu'en 2018, il y avait 200 contrôleurs sur l'ensemble de la France. L'idée, c'était en 3 ans de passer de 200 à 1000 contrôleurs sans embaucher en plus à Pôle emploi, hein, juste en prenant des conseillers sur le réseau. Déjà que ça fait 3 ans qu'on a subi 3000 suppressions d'emplois au niveau de Pôle emploi, ça veut juste dire en fait privilégier la répression des privés d'emploi au détriment de leur indemnisation, au détriment de leur accompagnement. Cette réforme, enfin ce décret du 30 décembre 2018 sur le renforcement des sanctions, c'est clairement en préparation à la réforme de l'assurance chômage qui vise à détruire l'accès aux droits et le montant des indemnisations pour pousser vraiment les privés d'emploi et les précaires à accepter tout type de taf et surtout à éviter comme la peste les Pôle emploi. On sait par ailleurs qu'aujourd'hui à Pôle emploi, ça devient une misère pour se faire accompagner. Moi, à titre d'exemple, je suis conseiller en accompagnement, j'ai 360 personnes à accompagner, ce qui est clairement impossible. Les personnes aujourd'hui à Pôle emploi, il faut savoir qu'au niveau des inscrits, je parle juste des inscrits, hein, parce qu'il y a plein de gens comme disait Pierre qui ont renoncé à s'inscrire à Pôle emploi. Aujourd'hui, parmi les inscrits, il y a 42% uniquement qui touchent une allocation de chômage. C'est-à-dire que la majorité des gens qui s'inscrivent à Pôle emploi, ce n'est pas pour toucher une allocation, contrairement à ce que disent les médias. C'est des gens qui sont inscrits pour trouver du taf. Donc 42% à l'heure actuelle touchent une allocation de chômage. Parmi ces 42% qui touchent une allocation de chômage, tu me diras si je me trompe, la moitié touche moins de 950 euros par mois, ce qui est déjà une misère. Et nous, on les voit, les situations de misère au quotidien dans nos agences. Là, je termine là-dessus. Quel est l'intérêt dorénavant pour les personnes qui se retrouvent au chômage de s'inscrire à Pôle emploi? On n'a aucune allocation ou des très faibles. On ne peut pas être accompagné parce que le conseiller il est débordé. Et en plus, on se prend des sanctions, des contrôles aberrants. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'un conseiller du contrôle qui me dit qu'il vient d'ouvrir un contrôle sur une personne que j'accompagne, enfin que j'ai pas encore vu, hein, parce que j'ai mon portefeuille depuis 2 mois. On me dit il va le contrôler. J'ai regardé le dossier, une personne de 56 ans qui a été marquée clairement dans les derniers entretiens par sa précédente conseillère qu'il a un état de santé qui ne lui permet pas de travailler. Cette personne-là ne touche pas d'allocation, elle est au RSA. Et pourtant, un contrôle est ouvert où le conseiller estime que la personne n'a pas fait de preuve de recherche d'emploi sur les 12 derniers mois, etc. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une sanction au final, parce que moi, il faut que j'intervienne à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même des impératifs, non pas de radiation, on n'en est pas encore là, mais au moins de contrôle. En Ile-de-France, en 2019, c'était 70 000 contrôles qui étaient exigés auprès des conseillers du contrôle. Donc, clairement, l'idée, c'est de faire peur, de réprimer et de dire de toute façon, oubliez l'inscription à Pôle emploi, vous ne serez pas accompagné et vous n'aurez rien, et en plus on va vous taper sur la gueule. Donc clairement, le gouvernement il peut être content, les chiffres du chômage, en tout cas des inscrits à Pôle emploi, baissent, il communique, il est content. Donc clairement, nous au niveau des conseils Pôle emploi, on n'a pas la main sur la méthode de calcul, parce que maintenant c'est les algorithmes qui gèrent les choses, on n'a pas la main, on ne pourra pas empêcher dans notre taf l'application du décret 1er avril. Par contre, et ça c'est ce qu'on fait depuis des mois, on sera à tous vos côtés. À chaque fois qu'il y aura des actions, on sera présent, ne vous inquiétez pas. Et on fera en sorte de construire des deux côtés du guichet la défense d'un vrai service public de l'emploi qui se soucie d'une indemnisation de qualité et d'un accompagnement de qualité. Merci.
Et oui, donc on va reprendre. Je reprends le micro, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Donc voilà, donc on va écouter maintenant le représentant de la CGT Intérim qui va nous expliquer que 80% des contrats en intérim sont subis avec une médiane, tenez-vous bien, de 13 jours. C'est-à-dire qu'en fait, les contrats de mission en général en intérim sont de 5 jours. Non, pardon, les contrats de mission de 5 jours, en fait, c'est une exception dans l'intérim. En général, ce sont des contrats de 1, 2, voire 3 jours, mais 5 jours, ça devient une exception. C'est une catastrophe pour le coup. On écoute.
Alors bonsoir tout le monde. Yannick pour la CGT Intérim. Oui, ça existe. Il y a une fédération de l'intérim à la CGT. Je vois vos visages là, tous étonnés. Oui, ça existe. La CGT est contre la précarité, mais ce n'est pas parce qu'on est contre la précarité qu'on ne peut pas défendre ceux qui y sont dans la précarité. Donc la CGT Intérim, c'est la seule fédé qui cherche à disparaître parce qu'on veut que tout le monde soit embauché en CDI. Dans l'intérim, on assiste de plus en plus à de grosses difficultés et la réforme de l'assurance chômage, c'en est qu'une de plus. C'est que la énième agression envers les travailleurs précaires de France, on peut déjà relier ça à la retraite. La réforme des retraites va déjà fortement impacter les travailleurs précaires et notamment les intérimaires. Donc aujourd'hui, plus de boulot, plus de salaire, plus de retraite, même plus d'assurance chômage. Il faut savoir que la belle époque où les intérimaires étaient volontairement intérimaires, elle est passée depuis longtemps. Aujourd'hui, l'intérim, elle est à 80% subi. La durée des contrats, et là, ça rentre directement en relation avec la réforme de l'assurance chômage, la durée des contrats d'intérim aujourd'hui, c'est hallucinant. La médiane est de 13 jours. C'est des contrats de 13 jours, et c'est la médiane. La moyenne, elle est beaucoup plus basse. Les contrats de mission, aujourd'hui, la règle, c'est plus des missions longues, c'est des missions très courtes, et une mission d'une semaine, c'est-à-dire de 5 jours, c'est déjà une exception. Si je sors ma fiche de paye du mois, en fait, c'est 25 fiches de paye. J'ai des contrats à la journée. Donc, et c'est pas des contrats qui se suivent. Donc, le temps de réactiver des droits, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Aujourd'hui, avec le système actuel, énormément, mais vraiment énormément, près de 60% des intérimaires qui ont des missions courtes et peu régulières survivent avec un complément en indemnisation chômage. Ils travaillent, ils sont payés le 12, du 12 au 15, et à la fin du mois, il y a le complément en indemnisation assurance chômage. Avec le nouveau système, c'est fini ça. Ça va être impossible à gérer. Et la plupart des intérimaires, qui étaient déjà pas bien riches, vont pouvoir être maintenant qualifiés de travailleurs pauvres. Ce qui est déjà le cas pour beaucoup, mais là, ça va être la règle. Sachant qu'aujourd'hui, l'intérim et le précaire, ça devient une habitude. C'est le mode, la précarité, c'est les conditions de travail normales. Le CDI n'est plus la norme. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Renault parce que je suis du Havre. Vous allez à Renault-Sandouville, vous voulez arrêter l'usine, vous mettez 100% des salariés Renault en grève, il y a 20 voitures qui sortent à l'heure parce qu'il n'y a plus de salariés Renault sur les chaînes de production. Une usine comme Renault-Le Havre, c'est 1700 intérimaires par jour. Il y a uniquement des intérimaires sur la chaîne avec des contrats de 5 jours, puis plus rien, puis à nouveau un contrat de 5 jours. Puis plus rien, puis un contrat de 2 jours. Et ces 1700 intérimaires de chez Renault, ils survivent. Et je dis pas ils vivent, je dis bien ils survivent, avec un complément Pôle emploi derrière. Et donc cette nouvelle réforme, c'est un cauchemar pour tous les travailleurs précaires. Et il y a pire. Il y a quelques années, une entreprise avait besoin d'un intérimaire, elle appelait un intérimaire. Aujourd'hui, une entreprise a besoin d'un intérimaire, elle appelle une entreprise sous-traitante, qui appelle elle-même une entreprise sous-traitante, et au bout de 10 sous-traitants, il y a la dernière qui appelle l'intérimaire. Donc l'intérimaire, au lieu de travailler avec l'égalité de traitement de Renault, il travaille avec l'égalité de traitement du 10e site sous-traitant qui l'a appelé. Il travaille sur la chaîne à Renault, il est intérimaire, il ne travaille pas pour Renault, il n'a pas les conditions de traitement d'un salarié Renault. C'est-à-dire que déjà, il est en dessous.
Désolé.
Et oui, bah, tout ça est bien, bien triste. Et devant cet état de fait, de cette casse des services publics, pour le coup, et puis de la mise à mort, peut-être, ou en tout cas de la misère, la mise à la misère de centaines de personnes, pour le coup, je crois que la seule solution, Ludo, c'est éventuellement de se mobiliser, de réagir, de contrecarrer, d'informer. Alors, déjà, peut-être.
Certes, mais en fait, justement, pourquoi les organisations qu'on n'a pas citées, qui sont fort nombreuses, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, évidemment, il y a Action Précaire IDF, Agir Ensemble Contre le Chômage, la CGT chômeur, bien sûr, mais la CGT de certains secteurs qui s'est bougé, par exemple Paris Musée, CGT Intérim, CGT Assistante Maternelle, CGT Pôle Emploi, on les a entendus, CGT Spectacle, etc. Enfin bon, il y a un grand nombre de collectifs qui sont bougés et on est nombreux. C'est que il a semblé important ces organisations de mettre en lien la réforme, la lutte contre la réforme de retraite et la lutte des précaires et des chômeurs. Et pourquoi ? Parce que les précaires et les chômeurs sont, enfin, et particulièrement les précaires, en fait, sont les premiers concernés par la réforme des retraites, monsieur, et par la réforme, évidemment, de l'indemnisation du chômage. Il y a un télescopage, hein, évident, hein, c'est-à-dire où on voit un agenda extrêmement libéral de notre gouvernement. J'allais dire bien aimé, mais là, ça va pas être possible. Et on le voit très bien, c'est-à-dire que dans la retraite proprement dit, le collègue là de l'intérim l'a dit, hein, les plus concernés, c'est ceux qui ne vont pas, justement, c'est en fait les précaires qui n'auront pas de continuité d'activité, en fait. Hein. C'est-à-dire que si le point est sur toute la durée de la vie et qu'en plus vous prenez juste un euro cotisé, un euro payé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous travaillez, vous cotisez, il y a certains justement intérimaires et précaires qui vont le sentir passer. Et on est sur une logique qui est encore qui est pire concernant l'indemnisation le chômage, puisque là, les intérimaires, les précaires bien sûr, et les intérimaires qui sont des précaires, hein, ça c'est sûr, eux vont manger sévère, comme il l'a dit, hein, le contrat médian c'est 13 jours, bon, et encore c'est pas mal, donc ça veut dire qu'il y a la moitié qui est en dessous, la moitié des personnes qui est en dessous, donc des contrats qui sont en moyenne de 1, 2, 3, 4, 5 jours, est-ce que ça suffit pour faire un mois, parce qu'ils donnent pas de volant. Alors il y a longtemps, il y avait des chiffres qui étaient parus, et qui montraient qu'en fait, parmi tout le volant des intérimaires, il y avait une minorité qui parvenait à truster un certain nombre d'heures qui étaient quand même relativement importants et qui pouvaient leur assurer un niveau de revenu à peu près correct, mais ce n'était même pas un équivalent temps plein.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que, alors vous direz, c'est le fait même de l'intérim, mais pas forcément. C'est-à-dire que quand il y a du boulot pour tout le monde, vous voyez, vous avez plus de gens qui bénéficient d'heures et qui sont presque à la limite. Là, manifestement, il y avait un problème d'emploi, hein, tout simplement, mis à disposition. Et donc, c'est forcément une population qui se mange le maximum de toutes ces réformes libérales, en fait, hein, qui visent finalement à la fois à mettre tout le monde au travail et en plus à favoriser le travail dans la retraite future. Ce qui était, vous me direz, déjà le cas, mais alors là, de façon encore bien plus marquée. Donc effectivement, ces organisations appellent à se mobiliser en tant que, évidemment, en tant que précaires et chômeurs, et de pas, comment dire, de le faire non pas en parallèle avec la lutte pour la réforme des retraites, mais avec la lutte pour la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des cortèges de chômeurs et précaires dans les manifestations pour
les retraites,
contre les retraites. Et donc du coup, à la fin a été rédigé un appel qui donne d'autres rendez-vous. Et donc on va écouter cet appel tout de suite, de façon
à appeler les gens à venir se manifester, en fait, ou manifester tout simplement.
Et aller aux âgés.
Bien sûr.
Après avoir cassé le code du travail en généralisant la précarité, le gouvernement veut priver les précaires qu'il a créés de toute protection sociale. Des centaines de milliers de chômeurs et chômeuses ont perdu tout droit à l'assurance chômage en novembre dernier, mais ce n'était que le début. À partir du 1er avril, le montant des allocations chômage baissera drastiquement, au point de plonger nombre d'entre nous dans la pauvreté extrême et la misère. Cette attaque contre les chômeurs et chômeuses est une attaque contre tous et toutes les travailleurs avec ou sans emploi. Elle vise à nous rendre toujours plus fragiles et plus corvéables. Le projet de « réforme » entre guillemets des retraites s'inscrit d'ailleurs aussi dans cette droite ligne d'attaque contre la sécurité sociale fondée sur la solidarité. C'est pourquoi nous, Donc là, j'ai repris l'appel. Précaires, chômeurs, etc. C'est ce qui est dans l'appel. Appelons tous les travailleurs et travailleuses avec ou sans emploi à rejoindre la mobilisation contre la réforme, je vais le remettre entre guillemets, quelqu'un me l'a dit, de l'assurance chômage. Nous appelons à porter, là écoutez bien parce que c'est ce qu'on vient de se dire, nous appelons à porter la lutte contre cette réforme dans les mobilisations prévues contre la réforme des retraites et pour le droit des femmes. J'aurais un truc à dire. Nous soutenons toutes les actions qui pourront avoir lieu contre la précarité. Nous appelons les 26... 30, 31 mars et surtout 1er avril à des mobilisations et actions spécifiques sur l'assurance chômage. La prochaine AG francilienne aura lieu le 25 mars prochain. Nous appelons à ce que de telles assemblées se tiennent partout en France.
C'était Frédéric, dit Fred, qui est venu plusieurs fois dans notre émission, une chanteuse comédienne que l'on aime bien ici. Alors, nous reprenons cette émission. Vous êtes bien sur Fréquence Paperiel 106.3 FM dans l'émission des chômeurs et précaires. Nous en parlons maintenant, Ludo, du comité de mobilisation de la direction générale de l'INSEE qui nous parle des retraites. Voilà. Donc, ils ont sorti un document. Voilà, donc c'est numéro 2 apparemment. Alors dis-moi, c'est...
Oui, c'est le comité de mobilisation en fait est soutenu par les syndicats de l'INSEE. Alors pas tous les syndicats, par la CGT, FO et Sud. Et donc c'est un comité qui est effectivement mobilisé pour... qui s'est mobilisé pour produire un document 4 pages sur les chiffres qu'ils ont à disposition, en l'occurrence sur les retraites. Et là c'est le numéro 2 qui était sorti en février 2020. Alors on avait parlé du premier le mois dernier, qui était de décembre. Donc je vais essayer de un document que vous pouvez retrouver sur le site
de l'INSEE,
des syndicats de l'INSEE, CGT, FO et Sud, et qu'on essaiera de mettre en ligne nous-mêmes sur notre site parce qu'il est très intéressant. Donc je vais juste essayer de résumer en quelques idées force. Voilà, ce document, c'est des choses en fait qu'on sert, c'est-à-dire qu'en fait, et qui sont dans le débat sur la retraite. C'est par exemple que les retraites sont plafonnées à 14%
du PIB, je crois.
Voilà, du PIB, et que effectivement, en les plafonnant à 14% du PIB, eh ben, c'est une façon de les limiter sur le long terme, de limiter les pensions sur le long terme, voire en cas de catastrophe économique, c'est-à-dire, exemple, le PIB se réduirait comme en Grèce hein, de 25%. Si vous avez écrit dans la loi que c'est 14% du PIB, ben, ça veut dire que les pensions, elles baissent d'autant, puisqu'elles restent à 14%. Donc, alors qu'avant, le système était prévoyait, vous voyez, pas prévu de baisse de pension, même en cas de crise économique. Donc voilà, donc ça sent un peu quand même l'arnaque parce qu'on ne sait pas de quoi ça fait. Il y a des rumeurs de crise financière. Bon. Alors il y a une autre chose, c'est que ils sont très forts en démographie, donc ils vous parlent en fait du baby boom, du papy boom, pardon, qui est l'effet du baby boom en fait des années 45. Et donc ils montrent en fait que ce qu'on sait un peu, c'est que le recul de l'espérance de vie et l'augmentation des seniors à un moment doit se stabiliser. Oui. Donc évidemment le souci c'est qu'effectivement il y a un vieillissement en fait des personnes qui sont de plus en plus âgées en quelque sorte, dont l'espérance de vie s'allonge, et donc forcément alors on doit monter à peu près à 30% de la population, mais vers une espèce de stabilisation autour de 2050, vous voyez, 2070. Et le problème que ça induit, c'est la dépendance, c'est-à-dire des personnes qui sont les plus âgées et qui ont recours de plus en plus à des aides ménagères, ou voire qui sont en EHPAD. Et donc, ils montrent dans leur document que le problème, c'est que si on n'anticipe pas une bonne couverture de retraite, eh ben, y a un reste à charge qui est beaucoup plus important pour des personnes qui sont pas forcément des retraités riches. Et donc la solidarité, dans ce cas-là, se reporte sur les familles, et que dans le cas des EHPAD, là, c'est carrément l'horreur, parce que du coup, les familles, y compris, payent, et elles payent pour leurs parents, et
Elles payent très très cher.
Elles s'endettent. Voilà, donc, donc c'est une solidarité, exactement, une solidarité inversée. Et que c'est un problème qui n'est pas du tout pris en compte dans la réforme de retraite. Hein. C'est grosso modo, vous allez vous démerder. Alors ça, c'est le deuxième point qui est très bien expliqué hein, avec des courbes, tout ça. Alors il y en a un autre qu'on connaît aussi. C'est que, à notre connaissance, hein, en tout cas depuis 2016, et je lis carrément juste leur chapeau, hein, la branche retraite de la sécurité sociale n'est plus en déficit. Vous le savez, non ? Vous le savez, bon. En fait, elle est même en excédent de 127 milliards d'euros. C'est tout, quoi. Ça va, c'est raisonnable. Et donc, on sait bien, en fait, hein, que grosso modo, les différentes réformes on fait baisser le taux de remplacement de la pension à la place du salaire. Donc, grosso modo, il est passé hein, d'à peu près de 80%. Et il est inférieur aujourd'hui à 75%. Or, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation prévue des dépenses, ou très très peu. Par contre, il y a un problème de recettes. Et pourquoi il y a un problème de recettes ? Alors, on l'a dit à ce micro, c'est que, principalement, il y a lié à une baisse des fonctionnaires, hein, c'est-à-dire qu'on a réduit le nombre de fonctionnaires pour justement avoir payé moins de retraite. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème simplement de pyramide d'âge, de gens qui cotisent. Alors, il y a ça, et puis il y a l'effet, bien entendu, l'effet du chômage important. Voilà. Et donc du coup, bon, pourquoi finalement faire une retraite, finalement qu'on a faire une réforme pour un déficit qu'on a soi-même provoqué.
Tout à fait.
Par
cette
politique de réduction. Vous voyez, c'est un peu la logique. Et puis il y a enfin quelque chose qu'on connaît aussi bien sûr, mais voilà, qui flotte un peu comme ça en l'air. Vous savez, c'est les retraites, ça coûte cher, c'est tout ça. Mais le fait est que la part des cotisations patronales qui conduit en fait à équilibrer le système des retraites n'a fait que baisser depuis 30 ans. Et bon, courbe à l'appui, il a baissé. Pourquoi ? Parce que il y a eu un tas d'exonérations fiscales qui l'ont permis hein, qui ont été compensées en fait par vous et moi, c'est-à-dire la CSG, la CRDS, c'est-à-dire le consommateur qui a carrément raqué. Donc on est passé hein, de 80% quand même, hein, c'est-à-dire que la protection sociale était assise sur 80% donc du travail, ça allait à 61%. Et ça, donc ça a baissé hein, de 18 points entre 1960 et 2017. Et le truc, c'est que on est à un tel point que, par exemple, augmenter de 0,0025,
oui.
Donc ça fait, en fait, ça fait 0,25%. Donc 0,0025, c'est le multiplicateur sur votre fiche de salaire de ce que vous devriez payer en plus, que tout le monde devrait payer en plus pour simplement équilibrer le régime des retraites aux environs de 2030. Voilà, genre, parce que là, ça devrait aller hein, pour les quelques années.
Bah,
même ça, personne ne veut entendre parler au sein du gouvernement. Alors que c'est la recommandation, c'est ce qu'écrit le corps, le Conseil d'orientation des retraites, l'organisme public qui s'occupe des retraites et qui, lui, finalement, le déficit, ouais, il n'est pas si grave. Il y a un excédent ici, il y a des caisses qui ont été prévues, 0,0025. Et ça, non. Et donc, on réintroduit l'âge d'équilibre qui fait que, non seulement on va travailler, donc prochainement on est à 62 ans, ça sera 64 ans, mais que l'âge d'équilibre sera indexé sur l'allongement de l'espérance de la vie. Donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'à 65, 67, tout le monde sera en capacité de travailler ?
Oui.
Et on sait très bien que non. Mais je vais vous dire une chose, hein, la vérité, c'est que ce n'est pas le problème du gouvernement. Parce que finalement, les trois quarts des retraites, finalement, des augmentations de retraite, elles sont indexées sur les retraites de base, qui sont quand même, sans les complémentaires, qui sont quand même pas forcément des grandes retraites. Or, s'il n'y a que ces retraites qui sont augmentées par l'inflation, ça veut dire qu'en fait, sur la durée, bien entendu que les pensions des retraites, la part des pensions baisse par rapport à l'inflation. Et c'est déjà le cas des retraités. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas le problème du gouvernement, parce que les retraites d'aujourd'hui, ce n'est pas le problème du gouvernement. Et les retraites futures, c'est encore moins le problème du gouvernement.
Oui, alors moi, j'aimerais juste réagir par rapport à ce que tu viens de dire, parce que tu as raison. Les personnes sont de plus en plus nombreuses à être âgées, puisque l'espérance de vie a augmenté. Et qu'en fait, les EHPAD dont tu parlais à l'instant, les EHPAD sur Paris et la région parisienne, c'est entre 3 000 et 4 500 euros le mois. Bon. Et quand on n'a pas les moyens de payer parce qu'on n'a pas les salaires pour payer ces EHPAD, on fait une demande d'aide légale sociale au département de Paris, ce qu'on appelle la DASES, c'est-à-dire la Direction des Affaires Sociales, qui, elle, en fait, paye à ta place, paye à la place des gens qui sont censés payer cette maison de retraite, l'EHPAD. Sauf que ce n'est pas une aide sociale légale, c'est une avance, parce qu'au bout d'un moment, quand la personne qui est en maison de retraite décède, la DASES, donc la Direction des Affaires Sociales, retourne vers les familles pour leur demander de rembourser la somme totale de ce qu'elle a versé. Et ça monte à des dizaines de milliers d'euros, voire
des centaines de milliers d'euros.
Parce qu'en fait, par exemple, sur 3-4 ans, c'est 100 000 euros. Tu mets 8 ans, tu doubles, quoi. Donc c'est vraiment...
Et sachant qu'ils prennent en compte le patrimoine des héritiers, en fait.
Hein. Exactement.
Donc ça veut dire que... Voilà,
on peut perdre sa maison, son appartement, et on peut s'endetter à vie si on doit rembourser tous les mois la banque, quoi.
Tout à fait. Et donc il y a quand même un vrai souci, parce qu'une meilleure prise en charge des retraites permettrait quand même d'envisager une meilleure prise en charge des personnes dépendantes. Parce qu'évidemment, que le salaire de la personne dépendante... Enfin, pardon, que la pension de retraite aille directement payer l'EHPAD, pourquoi pas, vous voyez. Et si, alors ça suffit pas encore, mais peut-être que dans certains cas ça pourrait aller mieux. Si vous baissez la retraite de tout le monde, on se prépare à une dépendance épouvantable pour les familles qui restent. Hein. Donc je veux dire, il faut pas croire, derrière ce mouvement, il y a un retour. Vous savez, pendant des années, on a dit l'État social n'était pas là, l'État-providence n'était pas là. Et qu'est-ce qui jouait à ce moment-là? C'était la solidarité familiale. Il jouait effectivement, alors dans les deux sens. Et ben là, avec l'appauvrissement de toute une société, le retrait de l'État social, c'est le retour de la solidarité familiale, effectivement, intergénérationnelle. C'est-à-dire que les parents soutiennent les enfants qui font des études et dans leur période de chômage, le moment d'obtenir. Et ensuite, donc, les enfants qui vont soutenir. Ouais. Sauf que tout le monde n'a pas les moyens, en fait, de soutenir ça. C'est un support qui grève des vies, en fait, en quelque sorte, qui contribue à l'endettement des parents et qui contribue à l'endettement des enfants.
Donc, et ceci est expliqué par un article du Code du droit social qui dit que on doit payer par solidarité nationale.
Tout le monde n'a pas les moyens de payer. Oui, c'est que l'inégalité, en fait, on reproduit une inégalité, on cumule une inégalité au départ, à la naissance. Si vous êtes dans un foyer modeste, vous avez quand même intérêt à cravacher pour avoir un bon niveau de vie plus tard. Sûr. Mais
Mais le pire, c'est que les personnes qui ont malheureusement pas ni les moyens, ni le bagage culturel ou intellectuel pour se défendre, payent automatiquement leur dette qu'on leur demande, alors qu'ils ont des moyens pour éventuellement de se retourner contre l'administration, pas en portant plainte, mais en allant devant un juge, etc. Mais c'est toute une procédure qui est coûteuse, qui est longue, et c'est inadmissible. Parce que quand on parle de solidarité nationale, on ne parle pas de tous ces gens qui appartiennent à la noblesse d'État, comme on peut dire, les vrais héritiers, dans le sens où les gens qui ont des entreprises, etc., qui, eux, comme ils ont des avocats et qu'ils appartiennent à des cercles, des réseaux très...
La loi profite toujours à celui qui a les moyens.
Exactement, voilà, tout à fait.
Du coup, il y a une double punition.
Voilà, donc c'est vraiment un scandale. Donc, on va écouter une petite chanson, Claude, s'il te plaît, et ensuite, on reprend la parole.
Thank you.
Et nous reprenons la parole dans cette émission mode d'emploi sur fréquence Paris Pluriel 106.3 avec Ludo au micro et Gilles.
Salut. Bonsoir. Ludo.
Claude à la technique, pour ceux qui nous rejoignent, voilà, je redonne les noms des personnes qui sont dans cette émission. Nous allons parler maintenant, Ludo, pour le coup, d'une personne que nous avons bien connue, toi et moi, qui a été journaliste, rédactrice en chef et maquettiste du 18e du mois, ouais. Un petit journal de quartier dans le 18e arrondissement de Paris, fait par des bénévoles, des habitants qui voulaient parler un petit peu de ce qui se passait dans leur quartier. Souvent des sujets de toutes sortes, donc de tout ce qui concernait le logement, l'hôpital, la voirie, les cafés qui s'ouvraient,
un journal local qui faisait bien son travail, qui parlait de logement, de
et qui se vend toujours parce qu'il continue encore. Ça fait 25 ans qu'il est sur le marché et on a bien tenu pour le coup. Puisque nous y avons tous les deux, ils travaillaient un petit peu.
Oui, il y a très longtemps.
Il y a très longtemps, voilà. Donc Nadia était donc cette...
C'est rédactrice en chef.
Oui, tout à fait, rédactrice en chef et maquettiste. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'elle vient de décéder, tout simplement. Donc on voudrait faire un petit coucou aux gens.
Elle avait 53 ans.
Elle avait quand même 53 ans, elle est décédée d'un cancer, ça. Elle laisse derrière elle un petit garçon d'une quinzaine d'années, je crois, ou de 12 ans, un peu, je ne sais plus son âge. Et c'était une personne qui était assez pertinente dans ses choix de sujets, mais surtout qui était un peu difficile à aborder parce qu'elle avait son petit caractère, un petit peu comme toute...
Mais elle était très engagée. Hein. C'était
Elle était très engagée.
Une militante de gauche, elle disait... Bah, moi, je l'ai connue, elle sortait Bourdieu. Elle disait,
oui, voilà.
Bourdieu a dit ça. On était tout culpabilisés à lui parler. Elle disait, je suis pas d'accord.
Ouais. Alors, elle a commencé quelques sujets comme ça. Elle a commencé sa carrière par travailler pour Témoignages Chrétiens. Ce qui est étonnant parce que Témoignages Chrétiens est quand même... un journal
de gauche.
De gauche, mais bon, voilà.
On a le droit d'être,
de gauche.
Je suis désolé.
Et croyant, pour le coup. Non, je présente.
Oui, enfin, vaut mieux, voilà. Si on travaille pour être chrétien. Ouais.
Après, elle a été parmi ceux qui ont participé donc, à la création, pas tout de suite, mais très très vite, elle a participé à la création du 18e du mois, donc elle a été rédactrice en chef.
Elle est arrivée après.
Un petit peu après.
Moi, je m'en souviens. Elle est arrivée presque en même temps que moi.
D'accord.
C'était il y a très longtemps.
Ensuite, elle a participé à Basta.
Basta Mag,
donc qui est un journal.
Oui, elle publie des articles sur Basta Mag, voilà,
qui était beaucoup plus engagé pour le coup. Elle a eu un procès donné par Bolloré, apparemment, puisque Bolloré, le milliardaire, a fait un procès contre elle.
Ah, ça, c'est une marque de distinction, de reconnaissance, je dirais.
Parce qu'elle a fait un dossier en plusieurs chapitres, donc sur plusieurs numéros.
Sur Bolloré.
Sur l'accaparement des terres. Donc certainement de Bolloré pour
en Afrique
voilà. Absolument.
Mais Bolloré faisait des procès à tout le monde, hein, je crois. Aussi au compris aux journalistes de France 2. Enfin, c'était voilà. Ils font partie de ces patrons qui ont besoin d'écrabouiller justement toute contestation publique.
Eh ben, figure-toi qu'elle a gagné son procès.
Eh oui.
Félicitations,
comme quoi,
voilà.
Il suffit pas d'avoir de l'argent pour.
Elle a été surtout en dehors du fait qu'elle était très militante, qu'elle participait à plein de choses, plein de numéros, de journaux gratuits, de journaux engagés, etc. Elle a fait beaucoup de vidéos avec des étudiants dans le social pour leur apprendre le maniement de la caméra, comment traiter un sujet, comment poser des questions dans un interview. C'était quelqu'un qui était vraiment
multifonctionnel.
Multifonctionnel, voilà. Et donc, c'était un moyen d'en parler aujourd'hui pour lui, d'abord pour dire...
Oui, pour lui rendre hommage.
Pour lui rendre hommage.
Une vraie vie militante, très engagée, et qui en même temps pouvait concilier militantisme et travail journalistique tout à fait... Correct, oui, c'est une figure hein, qui s'est
oui,
quelque part.
Oui, tout à fait. Oui. Alors moi, je voulais quand même d'abord dire à ses proches et à sa famille tout le bien qu'on peut penser d'elle. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Mais surtout, moi, j'avais quand même juste une petite chose à dire sur elle. C'est quand même, j'avais fait 2, 3, 4, 5 sujets dans le cadre du journal le 18e du mois. Et un jour, elle me dit, écoute, ça je coupe. Et comme moi j'étais bénévole et puis que je suis pas journaliste, je l'avais très très mal pris. Et en fait, elle avait une force de conviction qui finalement elle avait raison.
Qui emportait l'adhésion. Ouais,
qui emportait l'adhésion. Et donc j'ai mis ma colère sous le manteau, si tu veux. Et finalement, c'est elle qui avait raison. Mais bon, des fois, elle avait tort quand même, hein, pour le coup. Bon, parce que ses choix de photos, c'est peut-être pas toujours à bon escient, mais quand même, c'était quand même quelqu'un quand même qui était. Voilà,
ça, c'est ton avis.
C'est mon avis.
Mais c'était la chef, la rédactrice.
C'était la chef, la chef. Donc voilà, on se pliait à sa décision. Voilà.
C'est elle qui faisait le journal, surtout.
C'est elle qui faisait le journal, complètement au niveau maquette.
Voilà,
donc c'était quelqu'un que.
Journal qui était tenu auparavant par Noël Meunier. Meunier.
Oui,
aussi.
Oui, oui.
C'est quelqu'un qu'on respectait. Marie-Pierre l'arrivée.
Oui, oui, oui. Voilà. Donc, pour le coup, cette émission se termine. Tout à fait.
Merci Gilles de
merci.
L'avoir fait.
Merci Hugo aussi.
Merci à ceux qui l'ont écouté.
Voilà, merci à ceux qui l'ont écouté.
Et tout de suite, c'est SM.
Voilà, SM tout de suite après. Je vous fais un gros bisou aux filles et puis une poignée de mon garçon. Ciao.
Bonsoir.
Ah, quoi
bah alors, qu'est-ce qui se passe?
L'émission se termine.
On a encore un peu de temps pour le coup. Je sais pas. Je sais pas.
Voilà.
Bonne soirée.
Climb upon my knee, sonny boy. You only three, sonny boy. There's no way to know it, and I've no way to show it. What you mean to me?